Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mardi 7 juin 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Comment l'administration Raïssi a renforcé le poids et l'efficacité de l'Iran sur plan énergétique. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, Téhéran rejette une résolution proposée par les États-Unis et le trio européen. L'AIEA ne veut pas réduire sa coopération avec l'Iran, a déclaré Raphaël Grossi, le directeur général de l'agence viennoise. Et puis Téhéran a condamné une fusillade dans une église au Nigeria. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran demande au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique de rejeter une résolution proposée par les États-Unis et leurs trois alliés européens, à savoir la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Le projet de résolution sera soumis au vote lors de la réunion de cette semaine du Conseil des gouverneurs de 35 pays membres. Le projet accuse l'Iran de ne pas offrir de transparence sur les activités non déclarées sur trois sites nucléaires. Mais Téhéran met en garde l'agence contre la politisation de son programme nucléaire et affirme avoir pleinement coopéré avec l'AIEA pour résoudre les problèmes en suspense. Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté cette décision comme non constructive, en particulier compte tenu de la propagande israélienne et du soutien à une initiative anti-iranienne. Téhéran affirme qu'une telle résolution aurait un impact négatif à la fois sur sa coopération avec l'agence et sur les pourparlers de relance du PGAC, l'accord nucléaire de 2015. Il s'est engagé à donner une réponse proportionnelle à toute initiative de ce type. La Russie ne s'associera pas à la résolution sur l'Iran si elle est approuvée lors de la session actuelle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov. L'intention des participants occidentaux au pourparlers de Vienne d'approuver la résolution sur l'Iran lors de la session actuelle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA est plutôt contre-productive pour le JCPOA, l'accord nucléaire de 2015, a déclaré le diplomate russe, rapporte l'agence TASS. La Russie ne s'associera en aucun cas à une telle résolution, a conclu Ulyanov. L'AIEA ne veut pas réduire sa coopération avec l'Iran. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré lundi dans une conférence que personne ne veut voir une réduction de la coopération Iran-AIEA et que la décision sur la résolution du Conseil des gouverneurs contre l'Iran dépend des membres du Conseil. Interrogé sur son récent déplacement à Israël, à l'approche de la réunion du Conseil des gouverneurs, le directeur général de l'agence viennoise a indiqué que son voyage ne portait aucun message et qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il a ensuite souligné la nécessité de poursuivre les négociations entre l'Iran et la IOA, déclarant « Nous devons poursuivre les négociations avec l'Iran jusqu'à ce que ces questions soient clarifiées. Il n'y a pas d'autre moyen d'être honnête. » En réponse à une question pour savoir si une résolution contre l'Iran pourrait aider à résoudre les problèmes en suspens entre l'Iran et la IOA, il a expliqué « Nous devons continuer à coopérer avec l'Iran, mais ce que nous avons reçu d'eux, à savoir l'Iran, n'a pas été suffisant et nous ne pouvons donc pas avancer. Je pense donc qu'il est dans l'intérêt de l'Iran de régler ces problèmes qui demeurent et ne sont pas transparents, selon ses mots, afin que nous puissions continuer sur la voie et il n'y a pas d'autre moyen d'être honnête », a-t-il ajouté. La IOA est au courant des activités d'enrichissement de l'Iran. Les activités d'enrichissement de l'Iran ne sont pas secrètes et que la IOA est au courant des activités de l'Iran et que l'agence les inspecte, a noté Grossi. Concernant sa récente visite dans les territoires occupés, Grossi a déclaré « L'agence doit communiquer avec tout le monde dans le cadre de sa responsabilité. Nous ne devons pas seulement parler à une seule partie, nous devons parler à toutes les parties. J'y suis allé pour envoyer le message qu'ils ont laissé. L'agence doit faire son travail et que si l'Iran nous permet d'inspecter, les inspections auront de bons résultats. » Tout le monde, y compris le régime israélien, doit adhérer au TMP et bénéficier de toutes les installations, garanties et équipements de l'IOA, a-t-il conclu. Téhéran a condamné une fusillade dans une église au Nigeria. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a condamné une fusillade de masse dans une église au Nigeria qui a tué des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, et a exprimé sa sympathie pour le gouvernement nigérian, le peuple et les familles des victimes. Dans un communiqué émis lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a condamné l'attaque contre une église catholique dans l'état d'Ondo au Nigeria, qui a tué au moins 50 personnes lors de la messe de dimanche et a exprimé sa plus profonde sympathie pour les pertes des vies humaines dans l'attaque. Saïd Khatibzadeh a catégoriquement dénoncé de tels conflits qui, selon lui, sont formés pour semer la sédition parmi les adeptes des religions divines. Les exportations iraniennes de pétrole atteignent plus d'un million de barils par jour. Les statistiques économiques montrent que les exportations moyennes de pétrole iranien ont atteint plus d'un million de barils par jour. Les revenus pétroliers sont également connus, une croissance de 60% au cours des deux derniers mois. Un responsable bien informé au ministère du pétrole a fait savoir mardi que les revenus pétroliers iraniens au cours des deux derniers mois de l'année en cours iranien, commencés le 21 mars 2022, ont enregistré une croissance de 60% par rapport à la même période l'an dernier. Grâce aux efforts du ministère du pétrole et contrairement aux rumeurs et déclarations suggérant une baisse des exportations de pétrole iranien, les exportations iraniennes de condensats de gaz, de pétrole et de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques ont enregistré une croissance significative au cours des deux derniers mois par rapport à la même période l'année dernière, a indiqué le responsable. Il a ajouté que la comparaison des revenus du pétrole, des condensats de gaz et des produits pétrochimiques au cours des deux premiers mois de l'année iranienne en cours par rapport à la même période l'année dernière montre que ces revenus ont enregistré une croissance considérable. Selon toujours ce responsable, les exportations iraniennes de pétrole avaient augmenté à plus d'un million de barils par jour. L'actualité, c'est également la Syrie. Les médias syriens affirment que les défenses aériennes de leur pays ont intercepté des missiles israéliens au-dessus de la partie sud de la province de Damas. Selon une source militaire, des missiles israéliens ont été tirés sur des cibles au sud de la capitale Damas depuis les hauteurs du Golan occupés. La source a ajouté que les défenses aériennes syriennes ont abattu la plupart des missiles israéliens et que l'attaque n'a causé que des dégâts matériels. Israël attaque fréquemment la Syrie, mais en revendique rarement la responsabilité. Damas dit que Tel Aviv mène les attaques pour aider les groupes terroristes qui combattent l'armée syrienne. Damas s'est plaint à plusieurs reprises auprès des Nations Unies des raids israéliens appelant à la condamnation internationale de la violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Les évolutions en Ukraine, l'Ukraine et son Est, la situation sur le front de l'Est du pays est difficile, reconnaît Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. La plupart des villes orientales de l'Ukraine sont le théâtre d'intenses bombardements alors que la Russie continue de pousser pour prendre le contrôle total de la région du Donbass. De violents combats font rage dans les rues de Severodonetsk, la plus grande ville de Lugansk, qui est toujours sous contrôle ukrainien, mais qui devrait bientôt tomber aux mains des troupes russes, selon les commentateurs. Selon le ministère de la Défense, l'armée russe renforce ses troupes et ses équipements dans la ville. Le président Volodymyr Zelensky affirme que les forces russes sont plus nombreuses et plus puissantes, mais que son pays a encore une chance de riposter. Selon une mise à jour militaire ukrainienne, de civils ont été tués dans des bombardements russes à Donetsk et Luhansk. Entre-temps, des efforts sont déployés pour évacuer des dizaines de milliers de civils depuis plusieurs villes du Donbass qui sont sous le feu. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Comment l'administration Raïssi a renforcé le poids et l'efficacité de l'Iran sur plan énergétique? Le gouvernement du président Raïssi, en activant le rôle de la diplomatie énergétique avec les pays voisins et au-delà vers l'Amérique latine, cherche à renforcer l'efficacité et le poids de l'Iran au Moyen-Orient et dans les équations énergétiques mondiales. Lorsque le président Ebrahim Raïssi a pris ses fonctions en août 2021, l'Iran a été presque isolé sur le marché mondial de l'énergie, en raison du retrait unilatéral de Washington de l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien. Téhéran avait placé autrefois tous ses espoirs dans la relance de l'accord pour pouvoir trouver sa place dans le marché mondial du pétrole. Cependant, le président Raïssi avait toujours promis depuis les campagnes électorales de ne pas lier les moyens de subsistance du peuple iranien au sort du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien, l'accord nucléaire de 2015. Il a tenu sa promesse en moins d'un an après son entrée en fonction. Grâce aux efforts de son administration, la production et l'exportation du pétrole iranien, comme le confirme l'OPEP et les statistiques internationales, ont depuis augmenté. Le ministère du pétrole de l'administration Raïssi a réussi à augmenter la production de pétrole à plus de 3,8 millions de barils par jour. À cela s'ajoute la hausse des exportations de brut et de condensat. L'administration Raïssi, dès le début, a donné la priorité à la diplomatie énergétique et a favorisé l'échange de gaz depuis Turkménistan vers la République d'Azerbaïdjan comme première mesure dans ce domaine. Il s'agit d'une grande importance dans les domaines énergétiques et politiques, car cela a montré que l'Iran pouvait jouer un rôle efficace aux marchés énergétiques régionaux et mondiaux, même sans le JCPOA ou l'accord nucléaire de 2015. Les négociations pour un échange de gaz du Turkménistan vers la République d'Azerbaïdjan ont commencé 19 jours après la nomination de Javad Oji au poste du ministre du pétrole. Mais ce n'était que la première mesure prise par le 13e gouvernement pour rétablir le rôle de l'Iran sur le marché de l'énergie. Après cela, le ministre du pétrole a commencé ses déplacements officiels dans les pays voisins et bien sûr au-delà en Amérique latine. Sous le 13e gouvernement, l'Iran a élargi son marché d'exportation de condensats, de pétrole et de gaz vers l'Amérique latine et a même investi dans 3 raffineries vénézuéliennes pour stabiliser ses exportations de pétrole vers la région.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors dans ce débat, nous allons parler de la politique de deux poids deux mesures adoptée par la France vis-à-vis de la crise ukrainienne. Alors choisissant d'effectuer des livraisons d'armes à Kiev, la France donc a été reprochée par le président ukrainien d'avoir des concessions, de donner des concessions à la Russie. Donc on voit très bien cette politique de deux poids, deux mesures chez les Français, ou particulièrement chez le président français. Et justement maintenant, il n'hésite pas à dire qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Donc d'une part, la France veut contenter la communauté internationale en s'y opposant à la crise ukrainienne. Et de l'autre côté, donc, veut avoir de bonnes relations avec la Russie. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Ukraine s'en prend à la France après l'appel de Macron à ne pas humilier la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a fustigé l'appel du président français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie, jugeant que cette position ne pouvait qu'humilier la France. Les appels à éviter l'humiliation de la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies, a écrit le 4 juin sur les réseaux sociaux le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. Cette publication survient au lendemain d'une interview accordée par le président français Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale, dans laquelle le chef d'État français avait appelé à ne pas humilier la Russie, et ce, pour que le jour où les combats cessent, nous puissions construire une rampe de sortie par des moyens diplomatiques. Je suis convaincu que c'est le rôle de la France d'être une puissance médiatrice, a en effet déclaré Emmanuel Macron. À la mi-juin déjà, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui-même reproché à son homologue français de vouloir faire des concessions diplomatiques à la Russie, accusation face à laquelle l'Élysée s'était rapidement défendue. Un dialogue franco-russe en dents de scie, bien que le président français soit l'un des rares dirigeants occidentaux à entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine, la diplomatie russe a à plusieurs reprises reproché à Paris ses livraisons d'équipements militaires à destination de l'Ukraine. En choisissant d'effectuer des livraisons d'armes, y compris offensives à Kiev, la France alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme, avait par exemple estimé le ministre russe des Affaires étrangères le 29 mai, lors d'un entretien accordé à LCI, au cours duquel il a accusé l'armée ukrainienne et le bataillon Azov d'utiliser les civils comme boucliers humains et de placer des armes lourdes dans les zones résidentielles, près des écoles, des hôpitaux et près des jardins d'enfants. Le chef de la diplomatie russe avait également déploré à cette occasion que la France réclame une guerre jusqu'au bout pour vaincre la Russie. Il est en outre à noter que Paris, comme nombre d'autres chancelleries occidentales, a multiplié ces derniers mois les sanctions contre la Russie en réaction à son opération militaire en Ukraine.
Vous regardez l'émission Le Débat, nous parlons naturellement de la crise ukrainienne. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert de questions internationales qui est avec nous depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous.
Oui, un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour à monsieur Arnaud Develet, juriste international, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Monsieur Arnaud Develet, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Très bien. Alors, ma première question va s'adresser à monsieur Bernard Cornu depuis Vaucluse. Alors, monsieur Cornu, comment vous comprenez cette politique de deux poids, deux mesures chez les Français, ou plutôt chez le président français à l'égard de la crise ukrainienne? D'une part, on voit la France faire des concessions à la Russie, et de l'autre part, il dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Que pensez-vous?
Oui, je ne dirais pas ces deux poids et deux mesures, mais plutôt une politique difficile d'équilibre, dont le but principal, et le président français l'a répété, est de pousser aux négociations, c'est-à-dire à l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que la guerre n'engendre que des coûts, des destructions et des grandes difficultés sur les problèmes d'alimentation et sur les problèmes d'énergie, alors que l'Europe et le reste du monde doivent se concentrer surtout sur les problèmes de développement durable et pour faire face au changement climatique.
Bernard Cornu, comment donc pouvons-nous espérer la paix quand la France a essayé d'effectuer des livraisons d'armes à Kiev?
Comme je viens de le dire, c'est une politique d'équilibre assez délicate. Comme il y a eu des pressions très fortes à la fois de l'opinion, de certains partis, alors qu'on est en période d'élection, la France a fait un service peut-être minimum, et en plus elle a essayé de vendre, de confier des armes performantes pour aussi faire de la publicité sur son nouveau matériel qui tire des obus très précis. Donc voilà, mais je pense que la France en fait moins que les États-Unis, moins que l'Angleterre, et elle essaye de ne pas trop communiquer là-dessus aussi pour ne pas mettre une livraison, puisque c'est évident que qu'elles arrivent sur les territoires, notamment par la Pologne ou par la Roumanie.
Bernard Cornu, malheureusement, nous ne vous entendons pas. Si vous permettez, je vais m'adresser à Maître Develet depuis Damas. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une politique équilibrée, comme a dit M. Cornu, ou plutôt une politique de deux poids, deux mesures chez la France à l'égard de la crise ukrainienne?
Mais écoutez, on a souvent reproché à Emmanuel Macron son « en même temps ». Et force est d'avouer que dans le contexte de la crise ukrainienne, nous sommes en plein dans le macronisme, l'incohérence quant au positionnement à adopter. Nous avons un président qui, vous l'avez souligné, laisse entendre qu'il ne fallait pas, voire qu'il ne faut pas humilier la Russie. Mais je rappellerai à nos téléspectateurs que la France ainsi que l'Allemagne, depuis 2015, sont théoriquement les deux pays garantissant l'application des accords de Minsk, et que ces accords n'ont jamais été mis en œuvre, ce qui nous amène à la situation qui a vu la Fédération de Russie prendre les choses en main, pas la seule raison, mais l'une des raisons principales de l'intervention de la Russie le 24 février dernier dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et j'ajouterai à cela qu'il est difficile de croire la bonne foi du président français lorsqu'il exprime le désir de vouloir jouer le rôle de puissance médiatrice, dans le sens où la France envoie, à l'heure qu'il est, des armements sophistiqués, des canons à longue portée César, des missiles anti-chars Milan, que l'on sait qu'il y avait des conseillers français dans les trous d'Azovstal, dans les souterrains d'Azovstal, même si cela, pour l'instant, n'a pas été bien sûr confirmé, mais on peut penser que les tentatives répétées d'exfiltration et les coups de téléphone quotidiens de Macron à son homologue russe laissent entendre qu'il, au travers de couloirs humanitaires, était question d'exfiltrer des membres des services secrets français. Et puis on apprend bien sûr encore hier qu'il y a des combattants français, des combattants illégaux, des mercenaires, qui sont visiblement partie prenante des combats. Et donc dans ce contexte-là, ce qui est très très dangereux, c'est que cela fait de la France un pays co-belligérant et que théoriquement, la Russie aurait parfaitement le droit de prendre acte de cette situation et de demander des comptes à Emmanuel Macron. D'autant plus que le déversoir de toutes ces armes françaises, on le sait maintenant, ainsi que toutes les autres armes qui sont fournies par le collectif occidental de manière générale, semble être l'objet de détournements massifs. On retrouve ces armements maintenant sur le Darknet et on peut penser que cela va contribuer à créer des foyers d'instabilité un peu partout dans le monde et probablement principalement en Afrique.
Oui. Bernard Cornu, est-ce que vous nous entendez?
J'ai entendu mon collègue depuis Damas.
Oui, votre réaction, je vous prie.
Je crois qu'il a tout à fait raison de rappeler, de signaler cette dispersion des armements et qu'ils risquent de se retrouver sur du marché noir, qu'on retrouve déjà sur le marché noir. Et c'est une notion qu'on a déjà connue en Syrie, en Libye aussi. Et il faut juste confirmer quand même que l'objectif affiché de la France reste de conduire à la paix, à l'arrêt de la guerre, et qu'elle doit faire, dans une situation très complexe, elle livre des armes, comme ça a été signalé, mais l'objectif reste la paix, alors qu'on a vu, il y a quelques semaines, le président américain dire que l'objectif était de, disons, d'affaiblir définitivement la Russie, même si, il y a plus quelques jours, cet objectif a été un peu nuancé. Et la France continue à maintenir cette ligne, comme les Nations Unies, que l'objectif premier est la paix, car toute guerre amène à des souffrances, non seulement dans les pays qui font la guerre, mais aussi, on l'a vu, on l'a analysé, dans le reste du monde, par le problème des exportations alimentaires, par le problème des sanctions, par toutes sortes de problèmes. Donc le premier objectif reste de mettre fin à cette guerre. Donc la France, avec la Turquie, avec l'Allemagne, essaye de maintenir un dialogue positif avec les deux parties, même si c'est effectivement très difficile.
Bernard Cornu, le mal engendre le mal, finalement. Alors, comment la France peut jouer une puissance médiatrice alors qu'elle livre des armes à Kiev et comment on peut espérer la paix dans ce cas-là?
La Turquie a été dans cette position aussi. Elle a livré des drones à l'Ukraine, qui ont été apparemment très efficaces. Elle a quand même été acceptée comme médiatrice lors d'une première réunion, de deuxième réunion, à Antalya, avec présence du ministre Lavrov. Donc, les pressions aussi de l'Ukraine sont très fortes, sont très insistantes. Les pressions internes françaises et européennes de plusieurs pays aussi sont très fortes pour que les pays opposés à cette guerre livrent des armes à l'Ukraine. La France, je pense, fait un service minimum, même si c'est peut-être même devrait s'en abstenir. Mais ce que je souhaite et ce que j'observe, c'est qu'elle continue à œuvrer avec l'Allemagne et peut-être avec la Turquie et peut-être discrètement aussi avec les Nations Unies pour l'aspect de l'exportation des céréales depuis Odessa. Elle œuvre encore en priorité pour ceci et non pas pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie, ce qui, à mon avis, serait assez vain, assez prétentieux.
Absolument. Maître De Velay, est-ce qu'il est possible de contenter la communauté internationale d'une part et de l'autre faire des concessions à la Russie? Comment est-ce possible? Là, vraiment, on est face à une politique de double face. Est-ce que la France s'inquiète qu'après la guerre, ses relations avec la Russie soient donc... il y aura des problèmes avec la Russie?
Alors, je pense que la relation entre la Russie et la France, historiquement, a toujours été très forte. Et on peut penser que, malgré l'incurie de nos dirigeants actuels, cette relation endurera. Le fait demeure qu'aujourd'hui, la parole de la France est complètement démonétisée, qu'elle est dans un suivisme atlantiste qui lui cause un préjudice énorme et qui peut effectivement, à moyen court terme, se retourner contre elle, parce que n'oublions pas que la politique de sanctions tout azimut adoptée par l'Union européenne, dont Emmanuel Macron se fait le chantre, hein, n'oubliez pas que Macron est un européiste convaincu. On peut penser qu'il adopte un discours, soi-disant avec des accents gaulliens, pour rassurer la galerie en interne, mais qu'il est complètement aligné avec la position adoptée par la Commission européenne, incarnée par la présidente von der Leyen, qui est elle-même complètement alignée sur les positions de l'OTAN et partant de là des États-Unis. Et M. Cornu l'a très bien souligné, jusqu'à preuve du contraire, et malgré les injonctions de Henry Kissinger récemment encore au forum de Davos, il semblerait que jusqu'à preuve du contraire, la stratégie entre guillemets à suivre reste celle de continuer à livrer des armes et faire perdurer le conflit avec toutes les conséquences que cela engendre.
Maître de Velay, M. Cornu a dit tout à l'heure que les États-Unis, par exemple, préféraient et donc faire endurer la guerre et d'affaiblir la Russie par le biais de cette guerre en Ukraine, alors que la France et certains pays préfèrent d'arrêter la guerre et d'aboutir à la paix.
Oui, sauf que ce que les Européens ne semblent pas avoir compris, c'est que ce sont eux qui sont sacrifiés, en fait. La Russie a démontré d'ores et déjà qu'elle avait préparé le terrain en amont, et ce depuis probablement 2014, lors de l'Euromaïdan, lorsque les sanctions, les trains de sanctions avaient commencé à être mises en œuvre à leur rencontre. Ils ont donc se sont adaptés de telle sorte que, en pratiquant une forme d'autosuffisance, les sanctions récentes mises en œuvre après le 24 février s'avèrent maintenant être complètement obsolètes, et que c'est maintenant l'Europe, sachant que la Russie n'a pas encore déployé l'étendue de son droit de la réciprocité à imposer elle-même maintenant des sanctions à l'encontre de l'Europe, c'est l'Europe qui va en payer les prix, tant au niveau énergétique, mais au niveau aussi bien sûr alimentaire. Et c'est pour ça que l'on entend maintenant déjà la petite musique qui laisse entendre que la crise alimentaire de grande ampleur qui s'annonce est d'ores et déjà la faute de la Russie. Vous voyez ? Il faut anticiper et lire un petit peu entre les lignes du narratif occidental. Mais ils sentent très bien que leur stratégie a complètement échoué. Et plutôt que de se remettre en cause et de jouer l'introspection et d'adopter un comportement réaliste, ils préfèrent jouer la surenchère avec, encore une fois, les conséquences que cela peut engendrer.
Absolument. Et Bernard Cornu, vous avez dit tout à l'heure que les États-Unis préféraient que la guerre continue en Ukraine, ainsi la Russie sera affaiblie. Est-ce que c'est un but prémédité donc par les États-Unis, qui seront peut-être contents de cette guerre et donc voir l'Europe affaiblie?
En tout cas, il y a quelques semaines, ça a été un but proclamé, et comme ça fait un peu des remous dans les médias et même aux États-Unis depuis quelques jours, ce but est moins affiché. Les États-Unis ont dit qu'ils ne souhaitaient pas œuvrer pour un changement de régime, mais il est sûr que discrètement, c'est un but profond des États-Unis, affaiblir la Russie, mais aussi affaiblir l'Europe, même s'ils ne l'ont pas proclamé cela. Et en fait, dans les faits, la fourniture massive d'armes américaines à l'Ukraine entretient la guerre, entretient les destructions, et aussi, c'est vrai, affaiblit la Russie, mais aussi elle affaiblit l'Europe, parce que l'Europe va devoir s'est engagée à faire des investissements pour avoir des centres de liquéfaction et surtout de vérification du gaz naturel liquéfié qui serait importé des États-Unis et à terme peut-être d'autres pays. Et donc, au lieu de concentrer des investissements à tout qui est nécessaire pour la transition énergétique et environnementale, pour le soutien des énergies renouvelables, pour le soutien à la sobriété, à l'efficacité, à un changement d'énergie, l'Europe va investir sans doute dans des terminaux de gaz liquéfié qui s'avéreront, à mon avis, dès qu'il y aura la paix, dès qu'il y aura l'arrêt des sanctions à l'Iran, qui s'avéreront inutiles, inutilisés et donc un gaspillage. Et en plus, il est connu que l'utilisation du gaz naturel liquéfié est beaucoup plus polluante encore que l'utilisation du gaz, parce que la liquéfaction, la vérification, le transport en bateau, en tanker,
méthanier aussi engendre plus de pollution et de coûts que l'utilisation du gaz naturel comprimé dans des gazoducs.
Maître de Velay, le débat est devenu intéressant. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Cornu?
Alors, excusez-moi, mais la connexion n'était pas très bonne. Je n'ai pas forcément compris tout ce qu'il disait. Si vous pouvez.
Oui, en résumé, ça contente les États-Unis de voir la guerre continuer en fournissant des armes à Kiev. Comme ça, cela entretient la guerre et nourrit la guerre, autrement dit, la destruction.
Oui, ben, je pense que les États-Unis étant confrontés à une crise interne de grande ampleur, a tout intérêt à en fait resservir, c'est une ressuscité de la stratégie de la Deuxième Guerre mondiale où, en alimentant le conflit sur le continent européen, ça leur permet d'accomplir deux objectifs stratégiques, c'est parachever le découplage de son précaré européen de la Russie, hein, à commencer bien sûr avec les liens qui pouvaient unir au moins économiquement parlant, l'Allemagne et la Russie, les matières premières russes d'un côté et l'expertise technique allemande de l'autre. Cette politique semble être en voie de porter ses fruits, visiblement, puisque maintenant, visiblement, le gazoduc Nord Stream 2 a été, pour l'instant, si je puis dire, relégué à l'arrière-plan. Mais on verra... Comme je disais précédemment, les conséquences que, comment dirais-je, le fait que pour l'Europe d'adopter ce positionnement et de se couper de l'approvisionnement énergétique russe, qui était pourtant un approvisionnement à bon marché, pour se tourner vers le gaz américain qui est vendu au moins trois fois plus cher, avec des économies européennes qui sont en dépréciation totale. Je pense que cela participe aussi probablement de cette pseudo-révolution verte. Hein, donc c'est un modèle, quelque part, on utilise la crise ukrainienne et on appauvrit l'Europe pour mettre en place une forme de système qui sera indexé plus ou moins avec un crédit social à la chinoise, une paupérisation, une mise en esclavage des populations avec probablement à terme la fin de la propriété privée au travers de tout un tas de mesures sociales qui ont pour objet d'opérer une révolution anthropologique en Occident. Est-ce que cela va aboutir? C'est trop tôt pour le dire. Toujours est-il que nous nous dirigeons vers des troubles sociaux de grande ampleur en Europe et ce sera en fait là qu'il faudra observer soit les peuples seront capables de prendre conscience de ce que nos dirigeants les ont vendus, et renverser ces régimes illégitimes pour les remplacer par des dirigeants qui sont à même de prendre des décisions dans l'intérêt de leur pays. Et ça veut dire quelque part couper les ponts avec les États-Unis, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Maintenant, la Russie est arrivée à un point où elle n'a absolument aucune confiance dans la parole des Occidentaux. Elle a donné des années et des années de patience dans ce contexte-là, et une fois que les Russes prennent une décision et qu'ils intègrent cette donnée fondamentale, ils iront jusqu'au bout. Et donc cette idée de s'asseoir avec la Russie et essayer de négocier une espèce d'accord, même si cela implique des concessions territoriales, ainsi que Kissinger l'a laissé entendre, je pense que c'est bien trop tard pour cela. La seule condition qui pourrait permettre une discussion franche avec la Russie, qui permettrait une sortie de crise par le haut, serait de concéder que les priorités géostratégiques de l'Europe occidentale, en s'alignant dans un suivisme absolu sur la politique états-unienne, doit être, si je puis dire, relégué aux poubelles de l'histoire. L'avenir de l'Europe occidentale est avec la Russie. Tant que cette notion fondamentale n'aura pas été intégrée, je ne pense pas qu'on pourra avoir une évolution notable.
En deux mots, M. De Velay, est-ce que la France est une bonne puissance médiatrice dans cette crise? En deux mots.
Non, absolument pas. La France est une puissance complètement vassalisée par les États-Unis. La politique, en ce qui concerne le dossier ukrainien, puisque c'est la thématique du jour, est formulée à Washington. C'est le département d'État qui gère le dossier. Et le Quai d'Orsay à Paris n'est qu'une succursale du département d'État dans le camp occidental.
Eh bien, Arnaud de Vollet, juriste international depuis Damas, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui était avec nous depuis Vaucluse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Les mathématiques, également appelées reines des sciences, constituent l'une des principales sciences appliquées dans le vaste domaine de la civilisation iranienne, de sorte que de nombreuses découvertes et théories dans le domaine de divers calculs mathématiques et ses dérivés, tels que la trigonométrie, l'algèbre, la géométrie, etc., ont été faites par des scientifiques iraniens en cette ère. Et ces développements ont eu lieu à une époque où les ténèbres de l'ignorance et de l'inimitié avec la science et les érudits régnaient sur de grandes parties du monde. Il existe dans l'histoire européenne un concept dit « âge des ténèbres » qui caractérise tout le Moyen-Âge comme une période de ténèbres intellectuelles en Europe, une période qui coïncide avec une époque de développement et de croissance de la science et de l'art dans le monde islamique et en Iran. En d'autres termes, à une époque où l'Europe traversait une période d'ignorance et où ceux qui s'aventuraient dans la découverte des sciences inexplorées étaient pendus ou brûlés sur des bûchers de l'Inquisition, des efforts pour déceler des non-dits de diverses sciences étaient alors apogés. L'historien et auteur turc, le professeur Halil İnalçık, fait une étude contrastive sur les caractéristiques des deux mondes à l'époque et déclare à cet égard: ce qui a façonné la civilisation islamique a été la création des sciences basées sur la pensée, la théologie et la philosophie islamique à travers la culture islamo-iranienne, et cette évolution est survenue au IVe siècle de l'Égypte, l'âge d'or de la civilisation islamique. L'Europe trébuchait dans l'ignorance, mais au début de la civilisation islamique, le monde était témoin d'une fusion des cultures iraniennes et islamiques. À cet égard, l'historien et chercheur iranien Moussa Najafi déclare: les 4e et 5e siècles de l'Égypte sont une période de l'apogée de la civilisation islamique. Dans les périodes ultérieures, la civilisation islamique a également atteint son apogée. Au 9e siècle de l'Égypte, par exemple, la dynastie Safavide gouvernait l'Iran et la dynastie ottomane la Turquie. À l'époque, l'Empire ottoman dominait la Turquie et certains pays arabes, mais à l'apogée de la civilisation islamique, des personnalités comprises Avicenne, Abu Rayhan Biruni, Farabi, Ghazali, Nasiruddin Tusi et de nombreux penseurs vivaient à cette époque-là. Une grande liste d'un bon nombre de philosophes et de scientifiques qui vivaient dans la première période de croissance de la civilisation islamique témoigne de l'essor scientifique de cette époque. Dans les périodes ultérieures, les érudits se tournent plutôt vers le mysticisme, l'art et l'architecture. Les mathématiques ont été l'une des sciences principales et appliquées dans le domaine de la civilisation iranienne, de sorte que de nombreuses théories dans le domaine de divers calculs mathématiques et leurs dérivés tels que la trigonométrie, l'algèbre, la géométrie, etc., se sont produits dans ce pays. L'une des raisons de l'apprentissage des mathématiques était qu'elle était considérée comme une science fondamentale pour une science telle que la philosophie. Autrement dit, de nombreux philosophes iraniens étaient considérés comme des mathématiciens éminents de notre pays. À cet égard, le chercheur en sciences islamiques Fuad Sezgin fait référence aux outils et instruments scientifiques de l'ère de la civilisation islamique qui ont été fabriqués et utilisés sur la base des connaissances mathématiques mais n'ont jamais été enregistrés dans l'histoire des sciences mathématiques. Sezgin explique dans ce domaine: je veux vous montrer un appareil dont le nom n'a pas été enregistré dans l'histoire des mathématiques. Abraham Biruni est l'inventeur de l'appareil qui est utilisé pour dessiner un cercle sur le modèle de la Terre. Si l'on ne dispose pas d'un tel outil, il n'est pas possible de tracer un cercle précis sur la Terre. C'est l'un des outils inconnus dont le scientifique astronome iranien a parlé dans l'un de ses livres. Mais qui est Abraham Biruni? Il est un éminent scientifique iranien de la seconde moitié du 4e siècle et du début du 5e siècle, un écrivain prolifique avec de nombreux ouvrages en mathématiques, astronomie, pharmacologie et géographie. Abraham Biruni est l'un des érudits persans que le monde a progressivement découvert suite à l'avancement des sciences dans le monde. Il maîtrisait la plupart des sciences naturelles de son temps et a été l'un des premiers à trouver la gravité spécifique de nombreux objets. Le calcul a été fait avec une telle précision que la gravité spécifique de ces objets diffère très peu des poids spéciaux que les scientifiques des siècles derniers ont préparés pour tous leurs nouveaux appareils. Abraham Biruni a voyagé dans différentes villes, mesurant leur latitude et leur longitude et déterminant l'emplacement de chaque ville sur un globe. Après de nombreuses années, il a pu placer ses points sur une carte plane et cela a donné un coup d'envoi à la cartographie, l'une des branches de la géographie. C'est Abraham Biruni qui a calculé le chiffre le plus précis de son époque lié à la longueur de la circonférence de la Terre et qui a suggéré la possibilité que la Terre fasse un tour sur elle-même. Il convient de noter que l'astronome et mathématicien a vécu longtemps en Inde. Pendant longtemps, il a étudié l'histoire, les religions, les coutumes et la philosophie du peuple indien. Fait intéressant, les érudits indiens ne lui faisaient pas beaucoup confiance au départ et évitaient de s'associer avec lui. Mais Biruni a fini par gagner leur confiance et leur faire connaître un coin de la civilisation et de la culture iranienne. En revanche, il a fait des études approfondies sur leurs coutumes. Le résultat de cet échange de connaissances et d'informations est la rédaction de l'ouvrage intitulé « Une étude critique de ce que dit l'Inde, qu'elle soit acceptée par la raison ou refusée ». Le livre qui contient des informations crédibles et documentées. Et maintenant, 1000 ans après sa rédaction, le livre est toujours le premier choix des indologues en tant que source fiable. Biruni a accordé une attention particulière aux problèmes historiques des mathématiques. Par exemple, dans une note, il examine l'histoire de la découverte de deux relations trigonométriques importantes, théorème des sinus et des tangentes, par des scientifiques iraniens et la contribution de chacun d'eux dans le domaine mathématique. Dans un autre article, il traite des questions qui ne peuvent être résolues qu'à l'aide d'un compas et d'une règle non graduée. Dans ses travaux, et en particulier dans son livre « Istikhraj al-Awtar », Biruni met constamment l'accent sur la démonstration de théorèmes et de problèmes mathématiques de différentes manières et sur l'examen des similitudes et des différences entre les différentes méthodes. Pour cette raison, l'étude de l'ouvrage « Istikhraj al-Awtar » est très utile pour les étudiants qui souhaitent maîtriser la géométrie. Lors de la définition de termes tels que corps, surface, ligne et point, dans le cadre du livre Al-Tafhim, le mathématicien de renom s'écarte de l'ordre observé dans le livre Principes de géométrie écrit par Euclide afin de fournir des définitions concrètes aux débutants en géométrie. Dans ses recherches empiriques et ses études scientifiques qui s'appuient sur des principes mathématiques, Biruni soulève des questions nouvelles et novatrices et dans certaines parties, il établit des règles inédites jusqu'alors. Par ailleurs, il a énoncé la règle de la montée des eaux des fontaines et des sources et a expliqué la raison de l'ébullition des sources dans un langage scientifique. Il explique en outre comment faire remonter l'eau des profondeurs des puits et des sources vers les hauts lieux tels que les châteaux. Un regard sur la liste des œuvres d'Abu-Rehan Biruni nous dit qu'il était l'un des scientifiques les plus prolifiques de la période islamique. Empiriste, ce grand scientifique iranien s'est à plusieurs reprises considéré comme un serviteur de la science et a toujours exprimé sa joie pour avoir pu servir la science dès son plus jeune âge.